Bonjour, c'est Émilie. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer ma petite série sur la classe flexible. J'avais tellement de choses à dire dans l'épisode 5 que j'ai dû l'arrêter en cours de route. Donc dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de mes questionnements de départ, je vous ai un peu expliqué ce que c'était que la démarche de classe flexible et de l'état d'esprit, des postures qui y allaient avec. Donc dans ce nouvel épisode, je vais faire un point sur tout ce que j'ai essayé, sur les difficultés que j'ai rencontrées, sur ce qui a plus ou moins bien marché. Je vais vous parler de plans de travail, d'ateliers, je vais aussi vous présenter les centres même si je ne les ai pas testés et je vais vous parler aussi des ateliers individuels de manipulation. Et pour commencer, je vais parler des premiers changements concrets qui ont eu lieu au niveau de l'espace et du matériel. Notre premier changement, ça a été au niveau de la mutualisation du matériel. L'idée, c'est de fournir tout le petit matériel aux élèves, les stylos, les règles, tout ce qui est habituellement acheté par les familles. C'est du matériel collectif et ça simplifie beaucoup tous les déplacements dans la classe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les élèves vont se trouver quelque part dans la classe, ils vont trouver du matériel à leur disposition. Ça évite de se déplacer avec la trousse. Ça évite aussi tous les conflits qui peuvent être générés par la perte du matériel. Et puis, d'un point de vue de l'égalité des chances, ça permet que tous aient du matériel en bon état, au bon moment pour travailler et qu'aucun ne soit lésé par un manque de matériel qui n'est pas de son fait. Quand les élèves et les familles ne sont pas habitués, c'est pas forcément évident parce que parfois ils ont l'habitude d'avoir leurs propres affaires et il y a parfois des élèves qui sont pas très contents à la rentrée d'arriver et qu'on leur dise ben non, les affaires que tes parents t'ont achetées, tu vas pouvoir les garder à la maison et à l'école, on va tous utiliser la même chose. C'est un autre travail et en même temps, le fait de prendre soin du matériel collectif et d'avoir à se le partager, ça fait aussi partie des apprentissages sociaux. C'est comme pour les locaux, ils appartiennent à tout le monde, donc on a tous la responsabilité d'en prendre soin. Pour gagner de l'espace, on a aussi décidé de laisser les cartables à l'extérieur de la classe, donc les élèves les accrochent au porte-manteau ou les laissent au pied de leur manteau, et ils les vident le matin et ils entrent en classe avec leurs affaires. Ça permet de gagner de l'espace dans la classe et de faciliter les déplacements, éviter les chutes. Et ça les oblige aussi à vraiment faire attention à ce qu'ils mettent dans leur cartable parce qu'il y a des élèves qui ne l'évitent pas le matin et qui repartent avec toutes leurs affaires le soir. Donc là, on a aussi un petit contrôle en sortant de la classe. Bon, ben, on prend ça, ça, ça et ça et on les voit sortir, ils sont attentifs à ça. Pour éviter les problèmes, les cartables sont complètement vides dans le couloir et on peut imaginer d'avoir une caisse pour les élèves qui restent à l'étude et qui auraient besoin de laisser leur goûter en classe. Dernière chose que j'ai faite pour gagner de l'espace, c'était de faire disparaître mon bureau. Alors je m'en servais jamais, ni pour corriger, ni en classe. J'étais toujours à droite, à gauche dans la classe. Donc il ne m'a pas du tout manqué. Je range le peu d'affaires dont j'ai besoin, poids crayon, agrafe, dans un petit coin dans la classe. Et a priori, tout le reste est disponible pour les élèves. Ou rangé dans le placard. Je suis plutôt mobile en fait dans la classe et j'ai un tabouret à roulettes que je déplace un peu partout au gré de mes envies et de mes besoins. Une des choses dont je pourrais plus du tout me passer, c'est vraiment le coin regroupement. Je crois que c'est devenu the place to be dans ma classe. C'est vraiment un endroit que les élèves affectionnent particulièrement et dans lequel ils ont régulièrement envie d'aller. C'est convivial, c'est un lieu de regroupement, d'échange, d'écoute. Je crois qu'il est vraiment un vecteur de cohésion de groupe et les élèves aiment beaucoup le fait que quand on y est, je sois avec eux, je m'assois parmi eux. On s'y retrouve le matin pour l'accueil, le quad neuf. En fin de semaine, c'est là qu'on fait aussi les conseils. C'est aussi l'endroit où on se regroupe parfois pour chanter, pour discuter, pour régler certains conflits. Et aussi là qu'on travaille en groupe restreint. Même si vous n'êtes pas en classe flexible, c'est vraiment un lieu idéal pour tous les temps collectifs parce qu'on y voit mieux les élèves décrocheurs. D'ailleurs, il y en a moins parce qu'ils ont plus l'impression de faire partie d'une même discussion. On préserve, nous les enseignants, notre voix parce qu'on parle moins fort, ils sont plus près. Eux, ils sont plus à l'écoute parce qu'ils ont moins de distracteurs, pas de matériel. Et ça favorise les échanges entre eux et ça nous aide à les faire davantage venir au tableau ou montrer des choses. C'est vraiment un élément à avoir dans toute classe. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut le soigner, ce coin regroupement, le rendre agréable, accessible, le plus confortable possible. Pour l'agencement, vous avez vraiment plusieurs choix possibles. On peut faire juste une ellipse, comme dans les pédagogies Montessori, ou utiliser des bancs. Moi, j'en avais pas assez, donc j'ai pris des chaises. Mettre un tapis, j'avais acheté des coussins. Bref, vous vous l'appropriez le plus possible pour y être bien. Avant, le coin regroupement, c'était vraiment une évidence dans les classes de maternelle, mais beaucoup moins en élémentaire et qui plus est en cycle 3. Mais il a vraiment toute sa place en classe. Alors maintenant, je vais vous parler des plans de travail que je teste depuis maintenant presque 4 ans, je crois, sous différentes formes. Et c'est vraiment un outil motivant. Les élèves se sentent libres de pouvoir faire les choses dans l'ordre ou pas. Ils sont contents de l'autonomie qu'on leur octroie et en même temps, c'est cadré et ça les rassure. C'est un outil qui vient des pédagogies institutionnelles, de la pédagogie Freinet. Et je ne vais pas prétendre faire de la pédagogie institutionnelle parce qu'en fait, on s'était surtout, avec Élodie, inspiré de l'idée de départ. Mais au final, ça avait plus dérivé sur une suite de tâches prévues et organisées, mais qu'on n'a pas vraiment réussi à individualiser. Nos premiers plans de travail, ils étaient déclinés sur toute la semaine, en mélangeant surtout français et maths. Et en fait, c'était trop long et trop décourageant pour les élèves de voir cette quantité d'activités d'un coup. Alors après, on a segmenté en jours, avec lundi, mardi, mercredi à l'époque, jeudi et vendredi. Mais même ça, le facteur temps, en fait, était stressant. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui finissaient très vite leurs activités du jour et qui pouvaient faire autre chose. Et d'autres qui ne finissaient pas et qui voyaient les autres élèves avoir fini et qui, eux, ramaient toute la semaine pour rattraper le temps perdu et avaient des activités en plus et n'avaient jamais de temps pour eux, finalement. Donc après, on a fini par faire activité A, B, C, D pour poser un cadre, ce qui permettait de mettre aussi une limite pour les élèves un peu bâcleurs ou pressés. Et c'était aussi rassurant pour les élèves lents, pour les élèves angoissés et pour tous ces élèves qui ont besoin de savoir à l'avance la quantité de travail qu'ils vont avoir. Du coup, à l'intérieur de chaque groupe d'activités, on gérait aussi l'alternance des activités parce que même s'ils ont le choix de faire les activités dans l'ordre qu'ils veulent, bien souvent, ils les prennent dans l'ordre où ça arrive sur la feuille. Et du coup, ça permettait de mettre un cadre. Finalement, c'était un plan de travail collectif, mais sur un support individuel. Il faut savoir que c'est quand même assez long à créer. La première année, on s'est aussi heurté à un problème de support. À l'époque, on avait deux fichiers et on se retrouvait à avoir beaucoup de corrections d'un coup à la fin parce qu'on n'arrivait pas à tout voir et parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore anticipé l'autocorrection. Ça, c'est vraiment une découverte que j'ai compris récemment, cette nécessité d'avoir un feedback immédiat en fait pour les élèves, sinon ça sert à rien en fait. Tout le temps où on corrige le soir ou plusieurs jours après quelque chose que les élèves ont fait, c'est complètement inutile parce qu'on sait grâce aux neurosciences que le cerveau a besoin d'un feedback immédiat pour pouvoir corriger les erreurs. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait anticiper les corrections, c'est-à-dire l'autocorrection, et ça je le fais apparaître sur les plans de travail. C'est-à-dire que je donne plein d'indications qui favorisent aussi l'autonomie, à savoir où on fait l'exercice, quel est l'objectif et quel est le type de correction. Est-ce que c'est une autocorrection? Est-ce qu'il y a la correction au fond de la classe? Quel type de validation l'élève va pouvoir trouver pour continuer? J'indique aussi s'ils doivent effectuer la tâche seule ou en binôme ou s'ils peuvent trouver de l'aide quelque part. Alors au début, on a eu énormément de mal à réussir à prendre un groupe en atelier dirigé en même temps que le plan de travail. On s'est laissé vraiment happer par des élèves très demandeurs et qui nous sollicitaient pour de l'aide, pour plein de choses comme ça. Peut-être aussi parce qu'on n'était pas encore assez dans le lâcher prise et qu'on n'avait pas encore prévu d'activités suffisamment autonomes et qu'on voulait avoir encore trop de regards et qu'on était trop présente à ce moment-là. « Donc maintenant, je vais vous parler des ateliers. C'est une modalité qui n'est pas facile pour moi parce que je suis confrontée à un de mes plus gros défauts qui est la gestion du temps. Et le fait de devoir prévoir des activités qui ont le même temps pour tous, je m'y retrouve pas parce que finalement, parfois c'est trop long pour certains groupes, trop court pour d'autres. Je vais avoir besoin de plus de temps peut-être dans l'atelier dirigé et les élèves vont avoir fini ce qu'il faut faire avant et du coup se disperser. Ou alors, je prévois un temps de rotation qui n'est pas adapté à tous mes groupes. Donc c'est vraiment une modalité que j'utilise rarement, mais qui a son efficacité à certains moments. C'est idéal pour commencer l'année ou pour commencer un cycle, quand on a besoin de cadrer, pour montrer ou lancer des petites activités courtes qui n'ont pas forcément besoin de différenciation, mais juste pour expliquer par exemple les règles d'un jeu. Ça permet aussi de pouvoir voir les procédures et de travailler en plus petits groupes. C'est aussi idéal quand on a un temps limité, par exemple avec un intervenant, je pense à l'anglais dans mon école par exemple, où on se dit on n'a qu'une heure, tout le monde doit passer, donc on n'a pas le temps de les mettre en autonomie sur des ateliers libres et on a besoin de pouvoir cadrer ce qui va se passer pendant les rotations. C'est une modalité qui est intéressante quand on a besoin d'apprendre déjà à s'organiser, à travailler différemment. Ça oblige à être déjà dans du lâcher prise tout en étant quand même cadré dans son organisation. Alors moi, c'est quelque chose que je gère très mal, mais j'ai ma collègue Constance qui fait de superbes rotations d'atelier et qui a su casser les codes de l'atelier pour ne garder que le plus efficace. Donc elle a une gestion du temps parfaite, des activités d'entraînement utiles, une organisation claire et précise. Et du coup, l'avantage, c'est qu'elle a très tôt une excellente connaissance de ses élèves. Alors j'ai négocié avec elle une interview pour vous bientôt. Je vais très rapidement vous présenter un peu la pédagogie en centre des Bidealers, parce que c'est pas du tout quelque chose que je pratique et ce que j'en sais, ça me vient du livre enseigné en classe flexible que je vous invite à nouveau à lire. Et l'idée, c'est de matérialiser dans la classe des lieux correspondant à des domaines bien précis. Dans chaque centre, il y a un nombre d'activités limitées avec une rotation toutes les semaines. Donc toutes les activités changent en même temps. Toutes les aides d'un même domaine sont centralisées au même endroit et c'est là que les élèves travaillent. La seule chose que je pourrais retrouver un peu dans ma pratique, c'est le fait de centraliser les aides d'un même domaine au même endroit et d'organiser mes affichages afin que les élèves puissent se repérer. La dernière modalité dont je vais vous parler, ce sont les ateliers individuels de manipulation. C'est ce qui correspondrait le plus à ce que je fais dans ma classe en termes d'organisation, mais malgré tout, le terme de manipulation, me dérange un peu parce qu'il ne correspond pas vraiment à tout ce que je mets en place. C'est un terme qui vient des pédagogies Montessori et je ne peux pas dire que je ne sois que dans la manipulation dans ce que je propose comme atelier, en autonomie. Par contre, c'est ce qui me correspond plus par rapport à mon degré d'organisation. La rotation des activités est plus libre, elle ne change pas tout en même temps, et ça se marie bien avec les plans de travail. Au début, pour les lancer, il faut choisir des activités d'entraînement que tous les élèves maîtrisent et que même les plus en difficulté peuvent faire en autonomie. Ça permet de laisser le temps d'introduire certaines activités en atelier dirigé. Concrètement, j'ai testé plusieurs choses. Alors, j'ai fait à un moment donné plusieurs îlots avec une activité par îlot et un nombre de places limitées à chaque îlot. Donc, en fonction de l'activité, je pouvais mettre 6 places ou 2 places ou qu'une place. Et le lieu correspondait à l'activité. Ça fait peut-être un peu penser au centre. J'ai aussi à un moment donné essayé donc une grande table au centre de la classe avec plein de bannettes et des étiquettes dans chaque bannette avec la compétence et tout ça se rapportait au plan de travail. Et là maintenant je suis plutôt sur une étagère avec des bannettes ou mon meuble à cases dans lequel les activités vont se trouver. Alors je vais finir avec le suivi des élèves. Je crois que c'est ce qui a été le plus difficile à envisager et ce qui m'a posé le plus de difficultés, de trouver l'équilibre entre ni trop ni trop peu. de trouver aussi le courage de lâcher prise et de faire confiance aux élèves et de ne pas tout voir. Et je ne sais pas encore si j'y arrive complètement. De limiter aussi tout ce qui nécessite des corrections ultérieures, on en a parlé tout à l'heure. Et de trouver une façon de suivre leur travail qui soit ergonomique pour eux et pratique. Au début, on mettait des listes d'élèves dans les bannettes de chaque atelier et les élèves, quand ils avaient fait ou pris l'activité, devaient barrer leur nom. J'ai aussi essayé un tableau à double entrée ou un affichage dans lequel les élèves devaient cocher, mais en fait, ça ne fonctionnait pas parce qu'ils n'y pensaient pas forcément et puis c'était pas forcément assez gros ou parfois ils se trompaient. J'ai aussi essayé de faire des sortes d'équipes de travail où chaque équipe aurait un plan de travail différent, mais avec les mêmes activités dans un ordre différent. Je tâtonne encore sur ce point, j'ai pas encore trouvé la solution qui me convienne parfaitement, mais j'ai trouvé plein de pistes dans le livre Enseigner en classe flexible que je vais essayer d'explorer cette année. Ce deuxième épisode sur la classe flexible est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile, en tout cas agréable à écouter. J'ai eu plein de petits messages super agréables suite au dernier épisode sur les réseaux sociaux et j'espère que cet épisode sera à la hauteur de vos attentes.